Hello et bienvenue dans What Else, le podcast de Future for Care. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode un entrepreneur qui est en pleine ascension. Avec ses associés, ils repensent totalement la façon de synthétiser l'ADN. Et ils ont aussi pour objectif d'avoir un impact positif sur la planète. Alors, mon invité c'est Thomas Hibert et c'est le cofondateur et CEO de DNA Scripts. Bonjour Thomas.
Bonjour Vincent et bonjour à tous.
Bienvenue.
Merci.
Toi qui as déjà vu passer au moins un de nos épisodes, tu sais qu'on a, pour habitude ici de faire les choses à l'envers. Quand tu vas sur un podcast, on te demande de te présenter, qui tu es, d'où tu viens. Ici, on fait l'inverse, mais pour ça, en fait, il faut de la matière, il faut que notre invité soit bavard, parle de sa famille, son enfance, son état d'esprit, et j'en passe. Et je t'avoue que j'ai séché, c'est-à-dire que j'ai vu plein d'interviews de toi sur DNA Scripts, sur ta vision, c'était hyper clair, hyper précis, mais tu lâches peu d'informations sur toi, donc... Si tu l'acceptes, ce que je te propose peut-être pour commencer, c'est que tu nous parles de toi, qui tu es, d'où tu viens, et puis après on enchaînera sur la suite. Ça te va ?
Bah avec plaisir, ouais. Effectivement, alors qui je suis, d'où je viens ? Alors qui je suis ? Je suis un pur produit du système d'école d'ingénieurs français, avec vraiment, je pense, un mindset très ingénieur, beaucoup plus que chercheur d'ailleurs. Donc j'ai fait des études d'ingénieur à l'école polytechnique, et ensuite j'ai fait une thèse en microbiologie. Cette thèse-là, elle avait une particularité qui était qu'elle était au sein d'une grande entreprise française, Sanofi, qui est un partenaire de Future for Care d'ailleurs. Et donc voilà un petit peu qui je suis par rapport à mes études. Maintenant, qui je suis et d'où je viens, je pense que c'est une question assez intéressante parce que quand on me pose la question, alors je viens de Pau parce que j'y ai passé mon lycée et ma prépa, mais en réalité, à 18 ans, j'avais passé la moitié de ma vie en Afrique. J'avais passé déjà 9 ans en Afrique en suivant mes parents, mon père principalement pour son métier. Et donc j'ai fait plusieurs pays d'Afrique et ça m'a permis en fait de voir d'autres cultures et d'autres pays que la France. Donc pour moi, voyager et être un peu partout, c'est quelque chose d'un peu naturel. D'ailleurs, des fois, j'ai un peu envie de rester là où je suis. Hein, c'est le pendant. C'est-à-dire que moi, mes vacances parfaites, c'est pas forcément aller voyager à l'autre bout de la planète. Mais voilà un petit peu. Et sinon, par rapport à ma famille et à mon environnement, donc je suis marié depuis 2015 et j'ai deux enfants. Et c'est d'ailleurs l'anniversaire de mon fils Marius aujourd'hui.
Eh ben, bon anniversaire, Marius. Tu le disais, tu as un profil plutôt ingénieur et tu es rapidement devenu entrepreneur. On va parler de DNA Scripts, qui est aujourd'hui ta première société, qui est un vrai succès. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de nous expliquer en une phrase le métier de DNA Scripts ?
Alors, en une phrase, le métier de DNA Scripts, c'est de proposer une solution pour rendre la biologie programmable.
Très clair. Et ensuite, on va rentrer étape par étape sur le fond du propos. On va commencer par le commencement. Je pense que c'est une suite logique. DNA Scripts a été créé en 2014, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, ouais.
Et dis-moi si je me trompe, mais si je remonte en 2013, le vrai coup d'envoi, en fait, en tout cas, les choses se sont vraiment lancées en 2013 avec trois faits. Il me semble que vous avez enchaîné coup sur coup une collaboration avec l'Institut Pasteur, des premiers brevets, un chèque de 150 000 euros, les voyants étaient ouverts, vous êtes lancé. C'est comme ça qu'est né DNA Scripts ?
Effectivement, on a réussi à réunir ces trois éléments qui étaient extrêmement importants. Les trois cofondateurs, nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de la société Total. Donc moi, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Total. Sylvain Gariel, le second cofondateur, a également travaillé chez Total, notamment dans son stage de fin d'études. Et Xavier Gaudron, le troisième cofondateur, est aussi passé par Total, également pour un stage. Donc on s'est rencontrés là-bas. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Total. Et à un moment donné, je suis allé travailler dans la région de San Francisco, puisque Total avait noué une collaboration stratégique avec une très, très grosse start-up. Même si à l'échelle de Total, c'était plutôt petit, mais c'était quand même quelque chose de beaucoup plus gros encore que ce qu'est aujourd'hui DNA Scripts.
C'est une start-up dans quoi ?
Dans tout ce qui était biologie synthétique et notamment développement des biocarburants. Donc je travaillais là-dessus et à un moment donné, le projet s'est arrêté au bout de 2 ans et je suis rentré en France et ça, c'était au début de l'année 2013. Et donc effectivement, on a commencé tous les trois à travailler ensemble sur ce qu'allait devenir DNA Scripts, mais sans vraiment... jamais se dire, bon, bah voilà le nom de la société, voilà les statuts, voilà ce qu'on va faire. Non, c'était vraiment des réflexions. On travaillait le soir et le week-end sur notre temps libre. Moi, j'ai passé mes vacances, une partie de mes vacances à l'été 2013 pour faire des manips dans mon ancien labo de chez Sanofi là-dessus. Donc voilà, on préparait les choses et à un moment donné, ça s'est cristallisé sur le fait d'avoir un premier financement de Friends and Family, donc effectivement les 150 premiers milliers d'euros qui à l'époque nous semblaient être une somme colossale. Deuxièmement, cette collaboration avec l'Institut Pasteur qui allait nous aider sur la brique enzymatique de notre technologie de synthèse enzymatique qu'on allait développer. Et les premiers brevets qu'on a déposés nous-mêmes pour pouvoir protéger notre idée de base et pouvoir avancer sur cette collaboration-là. Et donc quand on a réuni ces trois éléments-là, moi j'ai quitté mon job chez Total et je me suis mis à 100% à travailler pour Dinescrypté. En réalité, d'ailleurs quand c'était un peu trop compliqué d'expliquer à des gens de l'Institut Pasteur, je disais je suis postdoc dans l'unité de Marc Delarue, c'était l'unité qui nous accueillait à l'époque, sans expliquer plus de détails, parce qu'en réalité, effectivement, je faisais le travail d'un postdoc, sauf que, en gros, j'apportais moi-même mon projet, j'apportais moi-même mon financement, et je savais que c'était pour en faire une société, c'était les premiers jalons, les premières briques de la société qui allait devenir Dinescrypté. Alors, on a quand même créé la société en mars 2014, à l'époque, pour pouvoir avoir effectivement une coquille corporate formelle de ce qu'on allait faire et de tous les progrès qu'on allait faire. Et voilà un peu comment ça a commencé, effectivement.
Sylvain et Xavier, tes associés, c'était quoi leur background exactement? C'est comme toi, un background... vous avez fait à peu près les mêmes types de travaux où ils sont aussi ingénieurs, scientifiques, mais sur d'autres compétences?
Alors, notre background, en tout cas, on est câblé de la même façon. On est ingénieur, issu de grandes écoles d'ingénieurs. Sylvain et Xavier ont fait les mines de Paris. Et effectivement, tous les trois, on se comprend d'ailleurs très vite, très simplement, parce qu'on a vraiment les mêmes types de raisonnements, les mêmes types de schémas de pensée. Donc ça a été extrêmement facile pour nous. On avait les mêmes valeurs d'excellence, des choses comme ça. Donc ça, c'était très facile. Après, Sylvain, oui, a pas mal fait de la biotechnologie dans ses études. Xavier, un petit peu moins. Et d'ailleurs, au début, c'était plutôt pour sa compétence microfluidique qu'on est allé le voir, qui était une bonne compétence de complémentarité, puisque on savait qu'on allait avoir besoin d'automatisation et de gérer en fait des procédés, des process. Et ces process-là, il fallait un petit peu de soit de fluidique, soit de microfluidique, enfin de l'automatisation autour de ça. Et donc s'entourer de quelqu'un qui avait ces compétences-là, qui étaient complémentaires aux compétences plutôt biologie, life science, ça nous semblait quelque chose de plutôt intéressant.
Comment vous avez décidé, alors les choses se sont faites successivement, mais de vos périmètres respectifs? C'est comme la clé aussi, c'est que chacun trouve sa place dans l'entreprise pour qu'ensuite on puisse la faire décoller. Aujourd'hui, tu es CEO. Xavier est CTO et Sylvain est, je ne me rappelle plus de son
intitulé. Sylvain est
COO.
Chief
Operating Officer.
Exactement.
Comment ça s'est dessiné tout ça? Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est aussi une question d'ego, c'est aussi une question de justesse, d'équilibre. Aujourd'hui, je s'imagine que ça reste que des intitulés, mais vous avez très vite réussi à vous trouver chacun des terrains de jeu, en tout cas des périmètres.
Très vite, et ça s'est fait totalement naturellement. Pourquoi? Parce qu'on est également très complémentaires tous les trois. Donc Sylvain, notamment aussi parce qu'au début du projet, quand moi j'étais à l'Institut Pasteur, qu'on n'avait pas encore fait notre première levée de fonds, Sylvain et Xavier n'étaient pas encore à 100% du temps sur le projet, même s'ils étaient énormément impliqués. Hein, on se retrouvait quasiment tous les soirs et tous les week-ends dessus. Sylvain, par exemple, travaillait à l'agence de participation de l'État. Et donc Sylvain, son background en finance et en business était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que le mien. Et d'ailleurs, Sylvain a toujours beaucoup plus d'affinité que moi sur ces sujets-là. Donc très naturellement, entre Sylvain et moi, on a défini des périmètres qui étaient, au début, moi, c'était la technologie, la vision, la stratégie et le produit. Et Sylvain, c'était tout ce qui était financement, business, aussi toutes les fonctions corporate au début, hein, parce que Sylvain s'occupait de toutes les fonctions corporate, finance, RH, tout ça. Et Xavier, quand il a rejoint le projet assez rapidement après ses études à PSL, lui est venu sur la partie développement et notamment il a pris de plus en plus d'épaisseur sur la partie technologie. Aujourd'hui, c'est notre CTO. Il fait un job phénoménal, bien meilleur que le mien quand j'étais responsable de ça. Donc ça s'est fait naturellement à la fois par rapport à nos forces et nos complémentarités en tant que cofondateur, et également naturellement par rapport à la trajectoire de l'entreprise. Quand l'entreprise a grossi, qu'il a fallu un peu plus se spécialiser, eh bien, les rôles se sont répartis comme ils sont aujourd'hui. Et je pense que c'est en misant sur les forces et les points forts de chacun. Je suis CEO de la société parce que j'apporte vraiment cette vision et cette stabilité autour de la vision de la société. J'ai également créé la société parce que dans mes expériences passées, notamment chez Sanofi, mais surtout chez Total Amiris, j'avais besoin de cette solution, j'avais besoin de cette imprimante ADN, j'avais besoin de cette nouvelle technologie. Et donc j'ai toujours une vision extrêmement forte du produit. C'est-à-dire que moi, je vais souvent dans les labos, je regarde comment est notre produit Syntax et je me vois l'utiliser. J'aimerais bien passer plus de temps d'ailleurs à la paillasse. Je peux pas actuellement, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à un moment donné. Et donc, je me vois interagir là-dessus. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ça et cette ligne rouge, ce fil rouge, pardon, sur cette aventure de création de DNScript. Et donc, c'est pour ça que je suis aujourd'hui CEO de l'entreprise.
Et on va parler, du coup, pour rentrer dans les détails de ce que vous faites. On a parlé du périmètre, de la manière dont ça s'est créé. Maintenant, on va parler d'ADN. Et je te le disais juste avant de démarrer l'épisode, je suis très content de le faire parce que on a un peu les antithèses. Moi, je suis un pur profil littéraire. J'ai toujours été très nul à l'école en bio, en chimie. Je pense que c'est lié à la pédagogie. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais me prendre une masterclass sur justement ces sujets-là. J'espère en tout cas. Et j'imagine que tu vas faire preuve de pas mal de pédagogie. Et je pense aussi d'ailleurs que ce sera très utile pour vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, qui vous posez beaucoup de questions, qui savez tous plus ou moins ce qu'est l'ADN, ce qui peut en être fait. Mais là, on va vraiment rentrer dans le dur. Et pour rentrer dans le dur d'ailleurs, l'ADN, concrètement, ça sert à quoi de créer de l'ADN aujourd'hui ? On a tous en tête la création de l'ADN, création d'enfants, j'appelle ça des enfants artificiels, je ne sais pas si c'est des enfants artificiels, mais en Chine notamment, des bébés dont l'ADN a été créé artificiellement. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, il y a un usage industriel, il y a un usage utile aussi à créer de l'ADN. C'est quoi l'intérêt ?
Oui, alors on va faire un petit retour en histoire justement autour de l'ADN. Donc l'ADN, il y a un point marquant qui a été la découverte de la structure en hélice de l'ADN en 1953, donc avec le prix Nobel de Watson Crick, qui a oublié Rosetta Franklin d'ailleurs. À partir de là, donne le coup d'envoi de la maîtrise de cette molécule, parce que cette molécule, on savait qu'elle portait déjà l'hérédité. Donc l'exemple classique, c'est pourquoi on a les yeux bleus. Généralement, quand on a des grands-parents ou des parents qui ont les yeux bleus, on regarde un petit peu comment ça peut se passer sur un tableau et on peut voir les chances qu'on a d'avoir les yeux bleus. Typiquement, le gène qui code pour la couleur bleue des yeux est récessif par rapport au gène marron, c'est-à-dire que dans chaque cellule, on a deux versions de chaque chromosome. S'il y en a un qui porte le gène yeux bleus et l'autre qui porte le gène marron, c'est le gène marron qui marche. Donc on savait tout ça. On savait que cette molécule était très spéciale, qu'elle était à l'intérieur des noyaux des cellules qui sont un peu le coffre-fort, comme le data center des cellules un petit peu. Et par contre, on ne connaissait pas la structure. Et quand on découvre cette structure, y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. C'est-à-dire qu'on voit cette structure en double hélice avec cet enchaînement de nucléotides qui sont les 0 et les 1 du code génétique de la biologie de la vie. Donc c'est ces quatre nucléotides qui sont ATCG qui vont coder l'information génétique là-dessus. Donc on découvre tout ça et très vite, effectivement, il se pose la question, mais quel est le code génétique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc les gens, pour pouvoir décoder et craquer ce code génétique, vont devoir synthétiser des fragments d'ADN, des petits bouts d'ADN. Et donc ils vont se mettre à essayer de trouver les meilleures méthodes. Et à l'époque, la chimie et la chimie organique est reine. C'est dans les années 50. C'est vraiment, c'est là où on invente tous les nouveaux matériaux. C'est là où Heureusement ou malheureusement, les deux guerres mondiales ont fait énormément progresser ce champ de l'industrie et de la connaissance. Et donc, évidemment, on se tourne vers les chimistes pour leur demander est-ce que vous pouvez nous synthétiser de l'ADN ? Et donc, c'est ce qui se passe. Ils synthétisent de l'ADN. Grâce à ça, on arrive à craquer le code génétique. Donc, on voit bien les codons, c'est-à-dire les enchaînements de trois lettres qui codent sur des acides aminés qui vont être les composants des protéines, ces mini-robots à l'intérieur des cellules qui vont être effecteurs. Et à partir de là, comme on se dit, c'est très très puissant, évidemment. C'est vraiment comme du code informatique. Hein. On arrive à programmer ou reprogrammer des systèmes biologiques. À partir de là, on se dit il faut absolument maîtriser cette synthèse de l'ADN. Et du coup, des gens travaillent de plus en plus sur comment est-ce qu'on synthétise de l'ADN pour faire plein de choses. Notamment, pour améliorer notre savoir et notre connaissance liée à la vie, comment fonctionnent les virus, comment fonctionnent les maladies génétiques, des choses comme ça. Et deuxièmement, pour bâtir des vraies applications dessus. Par exemple, pour soigner les gens qui ont du diabète, il faut leur injecter de l'insuline. Les premières insulines, elles sont extraites de porc, de cochon, et donc ça pose plein de problèmes parce que en plus le cochon et l'homme c'est assez proche. Il peut y avoir des virus qui vont passer de l'un à l'autre. Si c'est pas bien purifié, il peut y avoir des maladies qui sont liées à ça, avec des conséquences qui sont horribles, hein, c'est-à-dire la mort des patients. Et donc on se dit, si on pouvait avoir une levure qui, au lieu de produire de la bière ou du pain, qui produit de l'insuline, ce serait quand même génial. Et donc pour ça, il faut reprogrammer tout le background génétique de la levure pour qu'elle puisse produire de l'insuline. Et donc tout ça pour dire que le marché de l'ADN synthétique, donc de l'ADN qui est fabriqué par l'homme, c'est un marché qui existe depuis longtemps, plus de 50 ans, et c'est un marché qui est absolument fondamental pour tout ce qui est science de la vie. C'est-à-dire que tout projet en science de la vie utilise plus ou moins de l'ADN à un moment donné. Il y a des projets qui en utilisent des quantités considérables et des projets qui vont en utiliser assez peu. Et même des techniques comme le séquençage, qui est la lecture de l'ADN, utilisent en réalité de l'ADN synthétique pour lire de l'ADN, on a besoin d'abord d'en fabriquer. Donc voilà. Donc l'ADN, c'est vraiment partout et ça sert vraiment dans tous les projets de science de la vie et par conséquent dans tous les projets de santé.
Tu dis que ça a été amorcé il y a une cinquantaine d'années. Je ne crois pas me tromper en disant que les techniques pour séquencer de manière chimique de l'ADN, elles sont quasiment de cette époque-là. Les techniques utilisées jusqu'à, on va parler après DNAscript, mais des solutions comme DNAscript ont 40 ans. Comment ça se fait que les choses n'ont pas bougé, pas évolué depuis cette époque, les années 80 ?
Alors, dès la découverte de la structure de l'ADN, il y a eu une course pour savoir comment l'écrire, le synthétiser, donc je viens d'en parler, et une course pour savoir le lire aussi, parce que évidemment, les scientifiques, les chercheurs se sont rendus compte que tous les êtres vivants autour de nous contenaient des quantités d'ADN hyper importantes, et c'était très très important et fondamental de pouvoir comprendre quel était le code génétique associé, et notamment ce fameux projet de décoder le génome humain qui va voir le jour au début des années 2000 et qui a nécessité un temps, une quantité d'argent considérable, mais qui était un jalon fondamental dans l'histoire de la génétique et de notre compréhension de la biologie. Pour répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de temps sur les nouvelles technologies disruptives ? Alors justement, pour le séquençage, ça s'est passé un peu plus vite. Il y a eu des premières technologies, notamment la technologie de séquençage Sanger, qui a valu à son découvreur, M. Sanger, le prix Nobel. Cette technologie, elle a été utilisée pendant pas mal de temps, jusque justement au début des années 2000, et elle a permis de séquencer pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le génome de l'être humain. Et très vite, les gens se sont dit, mais il y a tellement de données qu'on va devoir lire, qu'on va devoir inventer une nouvelle technologie pour que ça aille plus vite. En gros, on puisse avoir un plus gros débit. Et c'est là où pas mal de personnes se sont penchées faire le séquençage haut débit, ou NGS pour Next Generation Sequencing, et où des géants comme Illumina sont arrivés suite à cette course vers le séquençage haut débit. Et donc Illumina aujourd'hui, qui pèse entre 50 et 70 milliards de dollars, il fallait que je regarde le cours en bourse avant, mais qui est vraiment le Google de la génomique, hein, dans notre milieu, et qui a totalement révolutionné ce pan de la biologie en introduisant la meilleure technologie et les meilleurs produits pour faire du séquençage au débit.
C'est un marché qui est assez ouvert ou c'est monopolistique d'ailleurs? Tu parles de cet acteur qui est quand même assez costaud.
Aujourd'hui, c'est un marché qui est concentré dans les mains d'Illumina parce qu'ils ont eu le meilleur produit, la meilleure technologie. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, hein, surtout maintenant que la technologie commence à avoir pas mal d'années derrière elle. Donc, il y a certains brevets qui tombent. Il y a aussi du temps qui a été pas mal passé par des gens pour justement un peu casser ce monopole parce que Illumina, non seulement a ouvert la voie sur, d'un point de vue technologique, mais a aussi complètement ouvert le marché à un marché du séquençage qui était en dessous $1 milliard. C'est passé aujourd'hui à un marché de 10 à 20 milliards de dollars, juste parce que bah, quand on peut faire plus, un peu comme le marché des laptops, hein, des personal computers, au début, quand on regarde ce CEO d'IBM dans les années 50 qui dit bah, « je pense que le marché de l'ordinateur, c'est 5 au monde », le mec s'est totalement planté. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est que les technologies allaient évoluer, on allait pouvoir mettre dans les mains de tout le monde cette technologie, que tout le monde en ferait des choses. Alors, il y a des gens qui vont juste l'utiliser d'un point de vue perso, pour le divertissement et tout, puis il y a des gens qui vont créer des entreprises et énormément de valeur avec. Donc, alors pour tout séquençage synthèse, on ne va pas le mettre dans les mains de tout le monde, évidemment, c'est destiné aux professionnels, des sciences de la vie, de la santé ou d'autres domaines associés aux sciences de la vie. Mais quand même, les mettre dans les mains de tout le monde, c'est important. Et d'ailleurs, j'y reviendrai quand on parlera un petit peu de DNAscript. Donc pour le séquençage, cette révolution sur la technologie s'est faite il y a grosso modo 10-15 ans. Et pour la synthèse, elle ne s'était pas encore faite. Et c'est justement en constatant un petit peu cet état de fait qu'on s'est dit, mais là, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à synthétiser de l'ADN comme il y a 40 ans. Il y a 40 ans, ça faisait énormément de sens que ça soit synthétisé avec de la chimie organique parce qu'on maîtrisait ça. C'était vraiment l'âge d'or. C'était top, top, top. Mais aujourd'hui, ça n'a pas de sens qu'on continue comme ça. Déjà, l'ADN, fondamentalement, c'est lié avec la vie, l'apparition de la vie. Et dans tout être vivant, il n'y a jamais de réaction organique qui se passe avec le type de solvant, le type de réaction qu'on utilise, nous, pour faire de l'ADN synthétique. Non, ça se passe avec des enzymes, ça se passe à des températures, des pressions, des conditions de réaction qui sont extrêmement douces et compatibles avec la vie, justement, puisque ça se passe dans les cellules. Et pourtant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace que ces réactions-là. Et donc, c'est notre postulat de départ. Comme notre vision et notre mission, c'est d'apporter une solution pour rendre la biologie programmable autant aussi facilement qu'un ordinateur, on s'est dit bah, pour ça, il faut qu'on invente une imprimante ADN, mais cette imprimante ADN, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde, qu'on puisse la mettre dans les mains de tout le monde. Et donc pour ça, il faut qu'on invente une technologie qui va être disruptive et qui va permettre d'avoir accès aux meilleures performances de synthèse, mais également à la plus grande simplicité possible.
Cette imprimante, elle s'appelle Syntax. Tu le disais, pouvoir la mettre entre les mains de tout le monde, parce que de ce que j'en comprends, et on va rentrer dans le détail, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, cette imprimante, elle est facilement programmable. Je crois savoir que c'est un quart d'heure. Et tu n'as pas forcément besoin d'avoir des compétences spécifiques pour pouvoir l'utiliser. Donc, si je comprends bien, c'est quasiment aussi simple qu'une imprimante, que certaines imprimantes à encre.
Exactement.
Mais très concrètement, comment elle marche? J'aimerais comprendre. Et quand tu dis tout le monde peut l'utiliser, est-ce que moi, demain, qui n'ai pas de compétences, en me formant un petit peu, j'imagine, mais je peux l'utiliser?
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est très clair. Comment ça fonctionne en pratique? On a une cartouche, comme dans une imprimante papier, qui est aujourd'hui, parce que c'est notre première itération sur notre produit, qui est une collection de bouteilles qui contiennent des réactifs. Donc, par exemple, il y a 4 petites bouteilles qui contiennent les 4 nucléotides ATCG. Il y a une bouteille qui contient l'enzyme. Et il y a plusieurs bouteilles qui contiennent des tampons de lavage qui vont être impliqués dans le processus de synthèse de l'ADN. Donc, on a cette cartouche-là donc, qui est composée d'un rack avec ces bouteilles. On load le rack dans Syntax, donc il y a une porte qui s'ouvre, on le met dedans. Et là, à ce moment-là, il y a une autre manipulation à faire qui est de mettre... donc ça, c'est l'équivalent de l'encre dans l'imprimante de bureau. Et puis, il y a une autre manipulation à faire qui est l'équivalent de mettre des ramettes de papier dans l'imprimante, qui est de mettre des plaques de synthèse, c'est-à-dire dans le format de la biologie, on utilise beaucoup des plaques 96 puits. Donc, c'est un bout de plastique où il y a 96 petits puits, petites capsules, qui font comme si on avait 96 tubes à essai. Voilà, si tu veux. C'est vraiment l'équivalent du format A4 dans le monde de l'impression. Et donc, il faut aussi mettre ça sur le deck de syntaxe, donc c'est-à-dire l'endroit où les différents le procédé va se faire. Et ensuite, on a un portail d'accès cloud, c'est-à-dire un site web où tu t'inscris, où donc tu as tes identifiants pour pouvoir accéder aux syntaxes que ton organisation possède. Et là, tu vas uploader tes séquences d'ADN. Donc, tu peux les uploader dans un fichier Excel, dans un format FASTA, qui est le format standard d'utilisation des séquences génétiques. Grosso modo, c'est un fichier informatique qui contient des ATCG. Hein, voilà. Tu peux faire jusqu'à 96 séquences en parallèle pour remplir justement ta plaque 96 puits. Et donc, une fois que tu as mis ta cartouche, tu as mis les plaques de synthèse, et que tu as uploadé ton fichier informatique qui contient les séquences que tu veux imprimer, tu appuies sur Run et l'imprimante va synthétiser l'ADN, va ensuite le nettoyer, le rendre tout propre, le mettre dans l'eau, et une fois que le run sera totalement fini, tu vas pouvoir retirer ta plaque 96 puits et utiliser l'ADN comme si tu l'avais reçu d'un provider qui sont aujourd'hui les personnes qui fournissent essentiellement l'ADN dans le monde.
En t'écoutant, ça a l'air hyper simple. Ça fait écho un peu à l'enseignement qu'on a tous tiré, en tout cas sur le plan économique avec le Covid, qui est la maîtrise de la chaîne de valeur. Parce que de ce que je comprends des procédés passés, ou en tout cas des procédés un peu anciens, c'est que ça prenait du temps. Aussi parce qu'il y avait énormément d'intermédiaires qui chacun maîtrisait un bout de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, vous apportez un procédé qui permet de maîtriser toute la chaîne de valeur. C'est un peu ça, enfin, j'imagine que c'est aussi une des grandes forces qui fait qu'aujourd'hui... vous êtes plébiscité, c'est vous permettez de relocaliser, j'ai envie de dire, de remaîtriser sa chaîne de valeur. Au-delà des économies que ça procure, il y a un impact aussi politique fort d'avoir un acteur qui est capable aujourd'hui de permettre de relocaliser. Ça, j'imagine que aussi vos clients, c'est ce qu'ils viennent chercher.
Tout à fait. Alors, il y a deux grandes parties de notre proposition de valeur. Il y a le contrôle, ce que tu appelles relocalisation, c'est vraiment maîtriser sa chaîne de valeur. Effectivement, c'est... ne pas attendre, ne pas être dépendant d'un tiers pour avoir accès à cet ADN qui est vraiment essentiel dans les projets. Et la deuxième proposition de valeur, qui d'ailleurs est très liée, c'est le turnaround time, c'est-à-dire le temps d'accès à de l'ADN. D'habitude, l'ADN il est synthétisé par des service providers donc qui vont recevoir la commande. Évidemment, comme ils en reçoivent plein, chaque commande fait la queue, hein, comme à l'aéroport. Ensuite, une fois que la commande arrive au synthétiseur, le synthétiseur va synthétiser. Ils vont mettre pas mal de temps à ensuite gérer un petit peu les protections chimiques qu'ils mettent autour. Et puis après, ils vont envoyer par la poste avec les prestataires logistiques habituels cet ADN-là pour que tu le reçoives dans ton labo. Et si tu fais partie d'ailleurs d'une grande organisation, tu vas encore avoir un échelon logistique qui va arriver à la réception de ta grande entité, et ça va encore mettre du temps pour arriver à ta paillasse là où tu en as vraiment besoin. Et tout ce temps-là, nous, on le réduit à quelque chose qui va passer quelques heures quand ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, c'est totalement disruptif parce que l'idée, hein, c'est comme dans l'IT, l'idée, c'est de faire des itérations les plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il y a un énorme parallèle. On écrit du code, on veut savoir comment ce code va influencer le système biologique d'intérêt sur lequel on travaille. Et donc, il faut faire ces itérations de design, build, test. Il faut les faire le plus rapidement possible pour arriver soit à une décision de go, no go, on en a fait un certain nombre, ça ne marche pas, on passe à autre chose, soit à faire avancer le projet le plus possible dans un temps donné. Donc, à la fin... grâce à ça, en fait, soit on fait dans un laps de temps donné, on permet aux gens de faire beaucoup plus de choses, soit pour arriver à une étape critique du projet, on a mis beaucoup moins de temps parce qu'on a pu faire beaucoup plus de cycles dans ce temps qui a été plus court. Et donc ça, c'est une proposition de valeur très forte avec le contrôle, et les deux ensemble marchent très très bien. Et effectivement, il y a pas mal d'acteurs qui en ont marre d'être complètement dépendants de ces tiers qui ne contrôlent pas cet aspect-là de leur projet qui est absolument critique et qui veulent aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, cette pandémie a révélé que, des fois, le temps, c'est vraiment la différence entre vie et mort. C'est-à-dire, c'est la différence entre un test qui est mis au point et un test qui ne marche pas, ou c'est la différence entre un vaccin qui sort au bout d'un an et quelques, ou un vaccin qui va sortir au bout de 3 ans ou 4 ans.
Toute cette simplification, là on parlait de sujets économiques, le fait de simplifier à la fois la production et le stockage de données, j'imagine que c'est aussi un argument écologique. T'arrives à faire valoir cette dimension écologique aujourd'hui ou c'est encore un peu, j'allais dire, un gadget dans ton argument de vente ?
Ça va dépendre de nos interlocuteurs, mais il y a un vrai angle écologique. Du fait effectivement d'arrêter ces envois et cette logistique autour et de simplifier la logistique autour et de relocaliser à l'intérieur, je pense aussi qu'on va orienter nos produits de plus en plus vers cette partie-là parce que c'est quelque chose de très important pour tout le monde. C'est-à-dire c'est quelque chose d'important pour l'entreprise d'INScript, pour les gens qui travaillent chez INScript, pour nos clients. Et généralement pour les gens qui bénéficient du travail de nos clients. Donc effectivement, on va appuyer là-dessus de plus en plus. Aujourd'hui, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas rendre le produit ultra, ultra green en même temps de le rendre très efficace, de le rendre très user-friendly. Donc clairement, on se focalise sur un produit qui va marcher, qui va répondre aux attentes, mais qui a déjà en fait les bonnes graines pour être un produit qui a un impact environnemental beaucoup moins important que ce qui se passe aujourd'hui.
Vous êtes dépendant, alors tu le disais, vous allez essayer d'utiliser des matériaux de plus en plus responsables, etc. Mais vous êtes dépendant de ces matériaux aujourd'hui. Vous avez besoin de plein de matériaux pour construire, même pour tous les procédés. On sait qu'aujourd'hui, il y a de manière générale une pénurie de matériaux. Vous la subissez ou pas spécialement ?
Alors essentiellement, donc c'est un bon moyen d'introduire notre business model. Donc nous, on vend des imprimantes et des cartouches, c'est-à-dire qu'on vend la machine, Syntax, le système, donc qui est grosso modo un équipement de laboratoire qu'on va mettre sur les paillasses. On peut le toucher, on peut le voir fonctionner, c'est assez impressionnant. C'est pas ce qui contient le cœur de notre innovation chez INScript, même s'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de travail à l'intérieur, clairement. Mais ce qui va contenir le cœur de notre innovation, c'est vraiment les réactifs qui, eux, encore une fois, sont une collection de bouteilles avec du liquide incolore dedans, donc beaucoup moins impressionnant. Mais à l'intérieur, c'est là où on va avoir les enzymes, les nucléotides, et c'est là où la magie va intervenir. Donc c'est vraiment d'un point de vue innovation et corps technologique, c'est vraiment un cran au-dessus. Et donc notre business model, pour y revenir, c'est vraiment de vendre les deux. Donc on vend l'instrument, un peu comme on vend...
Et comme n'importe quelle imprimante finalement, vends l'imprimante et les cartouches qui vont avec.
Exactement, ou modèle Nespresso, modèle Epson, Canon, c'est exactement la même chose. Alors, pour répondre à ta question, Vincent, c'est vraiment, effectivement, sur la partie imprimante, qui est un système complexe avec de la fluidique, de la mécanique, de l'électronique à l'intérieur. Et tous ces composants-là, surtout l'électronique, mais également la mécanique, aujourd'hui, c'est à flux tendu. On le sait, dans l'industrie automobile, c'est un exemple dont tout le monde entend parler tout le temps. Nous, c'est un peu pareil. On utilise peu ou prou des composants très similaires, voire identiques. Et effectivement, on est affecté par la pénurie et la disruption des chaînes logistiques dues au résultat de 2 années quasiment de confinement.
Et tu m'as lancé sur le sujet de business model. J'allais justement te le poser parce que on est dans un univers qui est celui de la santé où de manière générale, business model est une vraie question. Je le répète à chaque épisode, mais dans plein d'autres secteurs d'activité, très souvent on part du business model, puis derrière on peaufine le produit, c'est pas forcément plus simple. Et dans le monde de la santé, généralement, on définit, on crée un produit de grande qualité, puis après, on se pose la question de comment est-ce qu'on va le commercialiser. Ton business model est hyper clair. J'ai 2 questions. La première, c'est combien ça coûte ? Est-ce que tu communiques sur les prix de vente, déjà ?
Alors, on ne communique pas. Aujourd'hui, comme c'est un produit qui est encore dans une première version, on ne communique pas de manière publique sur les prix de vente, mais grosso modo, le prix d'un Syntax avec le prix d'un équipement de laboratoire qui est à peu près équivalent, donc entre 200 et 300 000 euros de taille équivalente. Donc si des gens veulent acheter un séquenceur donc pour faire de la lecture de l'ADN qui va avoir une taille et un débit similaire, ils vont à peu près mettre ce prix-là. Et donc nous, s'inscrit exactement là-dedans. Donc c'est pas quelque chose de déconnant par rapport à ce que les équipes de recherche payent pour ce genre de technologie, sachant que nous, c'est la seule imprimante qui fonctionne avec de la synthèse enzymatique qui est aujourd'hui disponible sur le marché.
Si je parle dans le jargon automobile, c'est quoi votre parc ? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager pour qu'on mesure déjà la volumétrie de du déploiement ?
Alors, ce que je peux partager, c'est certains clients qu'on a. Donc, par exemple, on a placé un de nos systèmes syntaxe à la DGA, dans l'armée française, qui d'ailleurs nous a beaucoup aidé à développer la première version des kits qui permettent de faire les produits qui font les fameux tests PCR que tout le monde entend parler, donc d'accord, les tests PCR pour détecter des virus comme le SARS-CoV-2 du Covid ou d'autres virus d'ailleurs. D'ailleurs, c'est, le vrai terme, c'est plutôt des tests qPCR, Q pour quantitative PCR, okay, qui sont en fait des tests qui mettent en jeu trois fragments d'ADN, deux fragments d'ADN qui sont des fragments d'ADN standard avec des ATCG, et un troisième fragment d'ADN qui a une particularité parce que ce fragment d'ADN-là, il est fluorescent. Et donc, il incorpore des bases fluorescentes à l'intérieur, et donc c'est pas les standards ATCG. Et donc, on a développé, avec le concours du financement de l'armée française et de la DGA, des nouveaux kits qui permettent de faire ça. Et aujourd'hui, ils l'utilisent justement pour développer. Alors, tout ça est confidentiel, et on ne sait pas à quoi ils s'en servent, mais ils s'en servent pour développer des nouveaux tests pour des menaces qui pourraient...
Le terrorisme, j'allais te poser la question justement, j'imagine.
Exactement. Donc ça, c'est un point que je peux partager. L'autre point où on est également extrêmement fier, c'est qu'on travaille avec Moderna, donc dans un consortium qui est financé par, cette fois, l'agence américaine DARPA, okay, donc plutôt liée à la défense américaine. Ces gens-là, que ce soit du côté français ou américain, sont extrêmement friands d'innovation. Ils ont les capacités pour identifier des innovations qui vont avoir un impact majeur dans le futur. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Il y a entre guillemets, il n'y a pas de hasard là-dedans. Et donc, Moderna, aujourd'hui, a un système qui fonctionne à l'intérieur de ses labos. Donc, pour un projet un peu plus long terme qui est extrêmement ambitieux, mais que j'adore, qui est le projet de faire un container. Donc, tu imagines un container de 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Tu arrives, donc il y a une menace infectieuse qui a surgi à un endroit du globe. Tu déposes le container. Donc, tu as prélevé les premiers échantillons des patients qui ont été malades. Tu as séquencé. Tu as effectivement trouvé le virus d'un nouveau génome, d'un nouveau virus. Et tu donnes ces informations, donc des informations purement de données virtuelles à ce container, et ce container te sort 500 doses de vaccin mRNA ciblés contre ce virus-là en 24 à 48 heures maxi. Et donc là, tu peux commencer à vacciner toutes les populations les alentours pour stopper net une pandémie naissante.
Toi, tu interviens à quel moment à ce niveau-là ? Tu interviens au niveau de la qualification du virus ou au moment de la conception du vaccin ?
Alors, c'est une très bonne question. Généralement, des agences comme DARPA financent deux consortiums qui vont être compétitifs. Nous, notre technologie, selon ma vision, elle est tellement clé qu'effectivement, ils nous ont pris dans les deux consortiums. Donc, on est avec Moderna dans un consortium et puis on est avec GE Healthcare dans l'autre consortium et ces deux consortiums se tirent la bourre. Et nous, là où on intervient, c'est justement, on prend les données qui sont loadées dans le container et on transforme ces données en premiers fragments d'ADN qui vont être ensuite assemblés ensemble pour faire les premiers gènes, si tu veux, les blueprints de ce que va être le vaccin ARN qui va sortir du container. Et ensuite, Moderna d'un côté et GE Healthcare, eux arrivent avec les technologies pour transformer ce gène en ARN, l'amplifier, le formuler pour que ça soit injectable à des patients. Donc, eux, ils apportent ça. Donc, nous, on apporte les deux premières étapes essentielles au projet et eux apportent les deux étapes de l'aval.
Ça paraît presque de la science-fiction. Tu vas finir consultant sur un blockbuster américain. J'imagine bien les choses. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur le business model. Tu nous disais, donc, un modèle de vente. Ce qui se démocratise de plus en plus dans toutes sortes d'industries, c'est le modèle par abonnement. peut imaginer un modèle par abonnement chez vous.
Tout à fait.
Location, et puis ouais. Je ne sais pas comment ça se déploie.
Il y a deux modèles. Au-delà de la vente directe, les gens achètent la machine, puis après, ils achètent des cartouches à la demande. Il y a un modèle qui est assez employé dans le monde des sciences de la vie qui s'appelle le reagent rental. C'est-à-dire qu'on met la machine à disposition et les gens achètent les cartouches, les consommables, avec un surcoût et en se mettant d'abord d'accord sur des minimaux, c'est-à-dire sur des minima, pardon. C'est-à-dire sur le fait que sur une année, on va en acheter au moins tant. Et donc, comme ça, ils remboursent, entre guillemets, la machine qui ne leur appartient pas, mais qui est louée. Et puis après, il y a le pure leasing qui est, comme dans beaucoup, beaucoup d'industries, hein, quelque chose que tous les gens connaissent, c'est le leasing de voiture. Et donc là, c'est pareil. Il y a une partie tierce qui achète la machine et qui fait payer des loyers aux clients. Et puis nous, c'est entre guillemets un peu transparent pour nous. La machine a été achetée et puis on vend les consommables liés à ça. Donc oui, on peut être très très créatif là-dessus en imaginant des forfaits, en imaginant des choses. Après, les gens sont assez conservateurs dans notre industrie, hein, étant donné que nos premiers produits s'adressent vraiment essentiellement au marché de la recherche en sciences de la vie. Ces gens-là, généralement, ce qu'ils aiment bien faire, c'est acheter la machine, acheter les consommables. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment un frein pour nous d'être un peu créatif côté financement de l'acquisition et location et autres.
Ce dont tu me parles depuis tout à l'heure fait écho à l'impression 3D de manière générale qui s'est démocratisée il y a une dizaine d'années. Ce que je trouve assez fascinant avec l'impression 3D, c'est la façon et la capacité à simplifier les process. Qui dit simplification, dit accessibilité. Et j'imagine que, au même titre que sur l'impression 3D classique, il y a de nouveaux usages qui ont émergé. Il y a de nouveaux usages qui vont émerger aussi avec ce type d'imprimante 3D que tu mets à disposition, parce que tu nous parles de grandes structures, de grands laboratoires qui aujourd'hui s'offrent les machines pour poursuivre des travaux qu'ils faisaient différemment avant. Mais j'imagine que il y a de nouveaux usages avec peut-être de plus petits acteurs qui vont émerger.
Ah tout à fait. C'est d'ailleurs pour nous très important. Ça fait partie d'un des piliers de notre vision, qui est justement de mettre dans les mains de tous ces acteurs, cette technologie. On ne veut pas la garder pour nous, on ne veut pas la garder dans nos labos, on veut la distribuer de la façon la plus importante possible pour que les gens, effectivement, se l'approprient complètement et créent des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est de mettre l'outil le plus performant possible dans les mains des gens qui, eux, avec cet outil-là, vont créer des choses complètement inimaginables. Ça va prendre du temps, c'est pas tout le monde qui va le faire, mais on est convaincu que c'est la bonne chose à faire pour créer le maximum de valeur dans le futur et pour vraiment faire progresser l'humanité dans les gros challenges, hein. Réchauffement climatique, faim dans le monde, indépendance énergétique, et puis surtout la santé, c'est-à-dire il y a encore beaucoup beaucoup de challenges en santé, le cancer évidemment, mais plein d'autres maladies qu'on est encore assez loin de maîtriser de manière satisfaisante. Et donc pour ça, c'est pas DNAscript qui allons. Nous, on va pas le faire directement. Nous, on met en place les outils et ça va être nos utilisateurs, nos clients qui, eux, vont faire des choses extraordinaires avec ces outils-là.
Tu faisais la comparaison avec un ordinateur et des lignes de code. En fait, si je comprends bien, demain, c'est l'équivalent d'un ordinateur, finalement, l'imprimante syntaxe, et puis ligne de code, c'est tous ces procédés.
Exactement. Voilà. Okay. C'est nous, on met en place l'outil informatique, et puis après, les gens ils regardent des vidéos dessus, ou alors ils créent des entreprises qui ont des valos de plusieurs milliards. Ça sera leur choix.
On a hâte de découvrir les premiers Sergey Brin ou Mark Zuckerberg sur ce type de procédé. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause. On va pas forcément quitter la pièce, mais on a un jeu ici qui s'appelle Avec des si, parce que comme tu le sais, avec des si, on refait le monde.
Oui.
Donc, si t'es OK, on lance le jingle et puis on y va.
Bien sûr.
Comme je te le disais, avec des si, on refait le monde, je vais te poser des questions qui toutes vont te demander de te projeter dans ta peau, mais dans un autre contexte. L'idée, c'est que tu réponds spontanément, un mot, une phrase, et si t'es prêt, on y va.
Bien sûr.
Si t'avais pas rencontré tes associés en 2013 et créé DNAscript, tu aurais fait quoi ?
J'aurais sûrement changé de boulot. Je serais parti de chez Total pour faire quelque chose dans une structure plus petite, mais quoi, je sais pas.
Si tu devais quitter DNS Crypto aujourd'hui, maintenant, et lancer une nouvelle boîte en 2022, tu irais sur quelle problématique ?
J'ai pas mal d'idées, c'est un peu difficile de trier là-dedans, mais je resterai dans les life science et dans la deep tech, vraiment des technologies qui vont permettre aux gens de faire avancer leurs projets. Donc vraiment le life science tool, c'est vraiment ce que je préfère.
On est dans un contexte politique fort en ce moment, élection présidentielle, législative. Si tu avais été nommé député cet été, ça aurait été quoi la première loi que tu aurais présentée, en tout cas celle pour laquelle tu te serais battu ?
Alors, comme je vis aux États-Unis, ça aurait été vraiment. Je suis extrêmement choqué de tout ce qui se passe sur les armes à feu et ça. Surtout maintenant que j'ai des enfants, ça résonne très fort à l'intérieur. Et donc, je pense que je me battrai vraiment là-dessus. En France, bien heureusement, on n'a pas le même problème. Pour moi, en France, c'est vraiment la transition énergétique, c'est-à-dire vraiment appuyer beaucoup plus des projets qu'on a lancés il y a maintenant très très longtemps hein, sur être moins dépendant des énergies fossiles et sur lequel il faut continuer à se battre et à y aller parce que c'est l'avenir de nos enfants.
Si on revient en arrière, au-delà d'essayer d'avoir un meilleur impact sur l'environnement, si on revenait en 2013-2014, au moment où tu crées DNS Crypto avec tes associés, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu avais cette occasion de revenir en arrière ?
Alors la première chose qu'on ferait différemment, c'est sur le premier financement de Friends and Family, qui au final c'est pas passé aussi de manière aussi bien que prévu, et qu'on a traîné pendant longtemps. On a traîné les conséquences pendant longtemps, donc c'est un peu bateau, c'est un peu les conseil habituel, mais bien s'entourer d'avocats, pas hésiter à dépenser quelques milliers d'euros en amont pour en économiser plusieurs dizaines, centaines en aval, ça c'est important. Je pense que les entrepreneurs, les primo-entrepreneurs et les entrepreneurs jeunes, inexpérimentés font pas mal l'impasse là-dessus parce que au début ça compte beaucoup, mais le faire bien, généralement quand on a un beau projet qui va aller de l'avant, c'est important. Donc ça, on le ferait différemment. Puis après, il y a toute une ribambelle de choses qui auraient été faites différemment. Enfin, je pourrais quasiment écrire un livre dessus. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est apprendre. J'ai jamais été CEO d'une boîte, j'ai jamais créé une boîte avant. Et donc, tous les jours, j'apprends. Alors des fois, j'apprends à la manière dure, quoi, avec des échecs ou des choses difficiles, des vrais challenges. Et puis des fois, c'est à la manière simple. Mais ce qui est sûr, c'est que la partie apprentissage est hyper importante pour moi. Et donc, forcément, quand on apprend, si c'était à refaire, on ferait les choses avec ce qu'on a appris. Et donc, ça serait quand même assez différent.
Si tu pouvais revenir jusqu'à 10 ans en arrière et investir dans n'importe quelle boîte, n'importe quelle start-up en l'occurrence, tu irais sur laquelle ?
J'irais sur Moderna, clairement. Si c'était 20 ans en arrière, j'irais sur Illumina, mais déjà il y a 10 ans, Illumina avait déjà pas mal monté. Juste d'un point de vue gain financier, je pense que Moderna, c'est mieux.
Je pense que ceux qui ont investi il y a 10 ans dans Moderna, effectivement, ont trouvé leur compte. Si tu devais consacrer 100% de ton temps à une seule tâche, tu es CEO, donc tu es transversal, mais si tu devais consacrer 100% de ton temps au marketing, au produit, à la finance ou à RH, tu choisirais quoi ?
Produit.
Très clair. C'est marrant parce que la plupart des invités s'arrachent les cheveux et c'est peut-être une des questions sur lesquelles ils passent le plus de temps, en ne voulant pas avouer qu'effectivement qu'ils pourraient passer du temps sur une tâche, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Si je pouvais exaucer ton vœu le plus fou, ce serait quoi ?
Faire en sorte que notre prochain financement se passe très bien.
On va en parler dans quelques minutes. Écoute, merci, c'est tout pour moi. Jingle. Je voudrais qu'on parle de médecine maintenant, parce que comme tu le sais, tout l'enjeu, c'est de passer du curatif au prédictif. Quelle place peut occuper DNS Crypto aujourd'hui sur ce passage-là ?
Alors, plusieurs aspects. DNS Crypto, nous, on commence vraiment sur l'aspect life science research, donc vraiment la recherche en sciences de la vie, hein, qu'elle soit appliquée d'ailleurs à la santé ou à d'autres domaines. et qu'elles soient appliquées à des choses concrètes ou plus à juste l'augmentation de nos connaissances, comprendre un petit peu les choses. La deuxième grande phase de notre plan, ça va être de jouer un rôle majeur dans tout ce qui est médecine personnalisée et de précision. Cette médecine personnalisée de précision, elle va se décliner dans deux aspects, l'aspect diagnostic et l'aspect curatif. L'aspect curatif, par exemple, c'est tout ce qui est un exemple typique maintenant que les gens connaissent, vaccin à ARN. La personnalisation là-dedans vient soit si on pense à tout ce qui est vaccin oncologique, donc c'est-à-dire pour la lutte contre le cancer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la tumeur d'un patient qui va être différente de la tumeur d'un autre patient qui sera atteint malheureusement d'une autre tumeur, et on va personnaliser le vaccin ARN contre la tumeur de ce patient-là. Voilà. Okay. Pour la partie diagnostic, pour reprendre aussi ces exemples de l'oncologie, qui est quand même un vrai enjeu aujourd'hui et qui va le rester pendant pas mal de temps encore, quand on soigne aujourd'hui une tumeur, un cancer, étant donné que les outils que je viens de décrire sur tout ce qui est thérapie génique et autres ne sont pas encore totalement développés, on va utiliser un petit peu de technologies classiques, chimio, radiothérapie et autres. Et ce qu'il faut vraiment avoir bien en tête, c'est la réponse de la tumeur à ce genre de traitement. Parce que ces traitements-là, généralement, ils ont des effets secondaires extrêmement forts, parce qu'en gros, ils tuent les cellules cancéreuses, et donc c'est un peu le napalm. Et donc, c'est-à-dire que si la tumeur ne répond pas correctement, c'est-à-dire si la tumeur n'est pas en train de se résorber, il faut changer de traitement assez rapidement, parce que sinon, ça ne sert à rien, on affaiblit encore plus le patient. Il y a beaucoup plus de subtilité que ça, et je ne suis pas un oncologue, mais on peut simplifier les choses comme ça. Et donc, avoir un diagnostic personnalisé, pareil, un patient qui va arriver, malheureusement avec une tumeur, on va séquencer la tumeur pour trouver des marqueurs génétiques de cette tumeur qui vont être très particuliers de ce patient et de cette tumeur, et qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans le monitoring de la réponse du traitement. Et justement, et on va pouvoir les utiliser de manière très fine, parce que dans le cas positif où la tumeur répond correctement, la tumeur va se résorber, puis ce qu'on va vouloir, c'est arrêter le traitement que quand on est sûr que tout est parti, qu'il ne va pas y avoir des métastases et tout ça. Et donc là-dessus, pareil, la personnalisation va énormément apporter là-dessus, parce qu'on va pouvoir avoir un monitoring le plus fin possible et extrêmement personnalisé au patient et à sa tumeur.
Et j'imagine que tu vas pouvoir le faire aussi parce que tu es en circuit court, le besoin il est instantané, et donc tu vas être capable de produire sans avoir un tas d'échelons, de prestataires et d'éléments délocalisés.
Exactement. Et aussi, il faut penser au patient. C'est-à-dire que le patient, c'est pas possible de le faire venir 4 ou 5 fois à l'hôpital, rester à chaque fois une journée. Pour le patient, c'est horrible. Il faut repenser que ce patient-là, il est atteint d'une tumeur. Donc vraiment, se déplacer, être en dehors de chez lui ou de son environnement standard, ça va être quelque chose de très lourd pour lui. Pour le système de soins, ça veut dire faire, si on pense à 4 ou 5 journées au lieu d'une, ça va être 4 ou 5 fois plus important. On sait comment calculer le coût d'un patient par jour à l'hôpital ou dans un centre de soins. Et donc, ce qu'on veut faire, effectivement, c'est faire en sorte que le patient arrive. Et puis après, le patient arrive, on fait tous les tests. Et puis directement, on a l'ADN qui va servir à faire le monitoring de cette tumeur-là le même jour, et on peut commencer à faire le monitoring qui, lui, va pouvoir être faire de manière remote chez le patient idéalement. Alors peut-être pas dans les premières instances, mais à un moment donné, oui. Mais dans tous les cas, on veut pas attendre des semaines entre le patient il arrive, on a fait les prélèvements, allez on le rappelle pour voir si effectivement ça fonctionne, allez on va faire les premiers. Non, on veut que ça soit de manière la plus locale possible et la plus rapide possible. Et on revient encore aux valeurs, aux propositions de valeur de notre solution, qui sont le contrôle, l'aspect local et le turnaround time, l'aspect rapidité.
Jusqu'où on peut imaginer aller avec l'ADN ? Parce que ça pose quand même pas mal de questions, notamment des questions éthiques. On parle d'usages qui sont fantastiques, ceux que tu décris en termes de médecine, mais voilà, ça soulève des questions. Je parlais en préambule des bébés génétiquement modifiés en Chine. Jusqu'où on peut aller, en fait ?
Oui, ces fameux bébés CRISPR qui effectivement ont été modifiés. Alors, l'ADN est une toute petite partie du procédé. C'est une question très importante pour nous. Et d'ailleurs, on a recruté une personne vraiment dédiée à tout ce qui est sujet biosécurité. On est très actif dans le domaine. On parle de manière régulière avec toutes les entités régulatrices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis dans ce domaine-là, puisque on veut vraiment aider l'écosystème à faire en sorte que la régulation soit la mieux adaptée possible. La mieux adaptée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette régulation, elle doit permettre de mettre les bons garde-fous, mais elle doit aussi permettre à ces technologies et à cette industrie de se développer. Parce que, comme dans tout outil, il y aura toujours des utilisations duales et les bénéfices, on vient d'en parler, sont extrêmement forts. Et donc, ce qu'on veut, c'est on veut faire en sorte que ces bénéfices-là soient vraiment mis en avant et que ces risques soient baissés le plus possible. Et donc, pour ça, il nous faut des régulations fortes et des régulations qui sont adaptées aux nouvelles technologies telles que celles qu'on développe.
Vous avez un comité scientifique, comité éthique ?
Alors, on est en train de le bâtir. Là, aujourd'hui, on a une personne qui est dédiée à la biosécurité, qui est une personne qui, effectivement, a beaucoup travaillé avec les régulateurs, donc qui s'y connaît très bien. Et on est en contact permanent avec ces régulateurs-là. Nous, on a une stratégie très simple, c'est d'être vraiment le fer de lance de tout ce qui va se faire comme verrou et garde-fou d'un point de vue pour baisser les risques d'utilisation duale. Par exemple, on va screener nos clients, on va pas vendre ça à n'importe qui et surtout pas à des organisations voire même des pays entiers qui sont pas censés avoir accès à ce genre de technologie. Et puis le plus rapidement possible, quand la technologie et le produit le permettra, on va aussi screener les séquences que les gens fabriquent pour être sûr qu'ils vont pas synthétiser s'ils en ont pas le droit ou le besoin ou les capacités, parce qu'il y a quand même des équipes de recherche qui doivent synthétiser des virus assez dangereux comme Ebola. Pour la recherche, c'est super important, sinon on peut pas faire de vaccin. Mais ces équipes-là, elles sont très bien identifiées, elles sont très bien cadrées. Généralement, c'est des équipes qui sont dépendantes d'entités gouvernementales. Et donc, mais en dehors de ces équipes-là très, très spécifiques, on va faire en sorte de mettre des garde-fous pour que les gens ne puissent pas synthétiser n'importe quoi avec notre imprimante ADN. Après, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les technologies et les entreprises qui vont pousser ces technologies restent vraiment au devant de la scène niveau innovation dans des démocraties, et notamment les grandes démocraties occidentales qui sont des modèles de démocratie, parce que sinon... si on est derrière, ça veut dire que ça va être d'autres régimes qui vont avoir accès à ces technologies-là, et la régulation, elle est toujours faite par les pays ou les groupes de pays qui sont les plus avancés technologiquement. Par exemple, la régulation des avions, de l'aviation, est faite essentiellement par les États-Unis. La régulation des médicaments par la FDA, c'est aussi extrêmement fort dans le monde. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, ils ont la plus grosse industrie pharmaceutique, la plus grosse industrie au niveau de l'aviation. Et donc, ça veut dire que en cultivant cet écosystème industriel, on va aussi se prémunir à long terme contre des dérives au niveau de la régulation, et on va toujours conserver une avance. Et encore une fois, il faut que les industriels et les autorités travaillent main dans la main pour faire en sorte que ça soit le cas.
Ça m'amène à une autre question, un sujet qui me fascine, que j'ai un peu de mal à matérialiser, c'est le stockage des données dans l'ADN. Alors j'ai lu qu'on pourrait stocker toutes les données générées par l'humanité en un an dans l'équivalent du coffre d'une voiture. Donc c'est intéressant à la fois parce que, encore une fois, sur cette dimension environnementale et puis surtout en termes de simplification, pouvoir stocker dans un si petit espace, mais j'ai du mal à le matérialiser concrètement. Comment ça se matérialise ? J'imagine qu'on parle là d'ADN synthétique. Ou est-ce que demain, mes données... personnel, je suis capable de me stocker dans mon ADN.
Alors, effectivement, c'est une application assez futuriste et c'est une application aussi intéressante parce qu'elle sort du cadre pur des sciences de la vie, puisqu'elle va plutôt dans le domaine de l'IT. Et d'ailleurs, moi, c'est une application que j'aime bien donner comme exemple parce que c'est vrai que, en tout cas, avant Covid, expliquer que ça sert à faire des tests PCR, personne ne comprenait, tout le monde s'en foutait. Donc c'était un peu compliqué, donc on va pouvoir stocker des données informatiques en ADN, et voilà, c'est très dense, il n'y a pas besoin d'apport d'énergie active, et ça peut être stocké sur des centaines, voire des millions d'années, des centaines de milliers ou des millions d'années. Tout ça fait un petit peu rêver par rapport aux data centers qui sont extrêmement gourmands en énergie, qui ont un vrai footprint sur le territoire, hein, là où ils sont implantés, et puis les bandes magnétiques et les disques durs qu'il faut changer tous les 5, 10, voire 15 ans maximum. Mais bon, voilà, donc ça veut dire des matériaux et de l'énergie consommée pour refabriquer ces supports de stockage de l'information. Donc c'est vrai que l'ADN a cet avantage-là d'être très dense, de ne pas avoir besoin d'énergie, et d'être très très durable dans le temps. Maintenant, pour faire du stockage de données en ADN, il va falloir toute une chaîne de valeur qui va commencer par l'encodage des données informatiques en ADN. Bon, ça c'est assez facile, hein, c'est un programme informatique qui va transformer des 0 et des 1 en ATCG en respectant certaines règles. Bon, relativement simple, ou en tout cas il y a beaucoup d'équipes de recherche qui ont travaillé dessus et qui ont sorti des algorithmes assez intéressants, je dirais. Ensuite, il va y avoir la synthèse de l'ADN, qui aujourd'hui doit être une synthèse extrêmement parallélisée pour baisser le coût et surtout pour pouvoir gérer la quantité de données qui est très très importante et qui va se traduire en une quantité de séquences à synthétiser qui va être extrêmement importante. Donc là, c'est sur ce point-là sur lequel DNScript a un rôle à jouer et aujourd'hui est actif. Ensuite, il va y avoir le stockage physique de l'ADN, hein, donc... À un moment donné, l'ADN, il peut être soit en solution, soit dans une poudre, soit sur un support. Et donc, il faut le stocker. Alors, pourquoi pas penser à une capsule qu'on va injecter aux gens. Je ne sais pas quel est l'intérêt ça, mais pour répondre à ta question, Vincent, on peut peut-être se dire ça. On peut même peut-être se dire qu'on veut l'intégrer dans ton génome avec une technologie CRISPR. Encore une fois, quel est l'intérêt et quelle est la faisabilité de ça? Je ne vais pas commenter aujourd'hui, mais voilà, il y a une vraie question sur le stockage physique de la molécule. Et ensuite, pour la fin de la chaîne de valeur, il va y avoir le séquençage, donc retirer la donnée, même si le séquençage, on en a parlé au début, a fait d'énormes progrès. Il y a encore beaucoup de progrès à faire sur la réduction des coûts et la parallélisation. Et enfin, le réencodage, qui va être plus ou moins le pendant de l'encodage. Donc ça, à la limite, si on sait faire l'encodage, on sait faire plutôt bien le réencodage. Mais il va falloir avancer, inventer et développer surtout toute cette chaîne de valeur. Et il n'y a pas un acteur qui va le faire. Ça va être vraiment quelque chose qui va être une vraie collaboration entre les différents acteurs pour pouvoir mettre en place toute cette chaîne de valeur. Un peu comme quand le CD, le compact disc est arrivé. Il n'y a pas que Sony qui a travaillé dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, que ça soit l'encodage du son en 0 et 1, les algorithmes d'encodage, tout ce qui était le système optique avec les diodes de lecture et tout ça. Voilà, donc c'est pareil pour le stockage de données en ADN. Il n'y aura pas une société toute seule qui le fera dans son coin. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus large et qui suppose de déverrouiller beaucoup de verrous technologiques, que ça soit dans la synthèse, dans le séquençage, mais aussi dans le stockage physique et même ailleurs.
En t'écoutant parler depuis le départ, je visualise un énorme boulevard et je vois avancer sur ce boulevard parce qu'il y a un champ des possibles qui est quasiment infini. Je me pose une question, même si tu as parlé notamment d'un géant, Illumina. Vous avez des concurrents, il y a d'autres, si on peut appeler ça start-up, mais d'autres... jeune entreprise en face de vous, vous êtes vraiment, vraiment sur ce boulevard tout seul?
Non, on a des concurrents. Alors, on a déjà les concurrents un peu traditionnels qui aujourd'hui sont sur le marché de l'ADN de synthèse, qui, comme je l'ai dit, existe depuis plus de 40 ans et qui vendent comme service cet ADN de synthèse à toutes les sociétés qui travaillent dans les sciences de la vie. Donc ça, ce sont nos concurrents qui sont sur les marchés. On doit les déplacer de ce marché-là avec un nouveau business model et une nouvelle technologie. Donc on apporte les deux. Et effectivement, on a des concurrents aussi d'un point de vue, donc un peu ce que tu disais, donc start-up, petites entreprises qui, elles, travaillent sur les mêmes technologies disruptives de synthèse enzymatique de l'ADN. Et donc, c'est vraiment des concurrents technologiques. La plupart d'entre eux sont aux États-Unis maintenant. Il y en avait une en Angleterre, mais elle a pivoté pour différentes raisons. Et donc, ces start-up-là, évidemment, on monitore ce qu'ils font, leur progrès, leur dépôt de brevets, leur levée de fonds, tout ça, pour être sûr de faire en sorte qu'on a une bonne idée de ce qui se passe. Nous, aujourd'hui, on considère qu'on a plusieurs années d'avance sur les plus avancés parce que on a imaginé une solution technologique qui nous a permis d'avancer plus vite sur justement le développement de cette synthèse enzymatique de l'ADN qui est le cœur de notre technologie. Et donc, en avançant plus vite là-dessus, on a pu démarrer le développement d'un produit plus vite et on a pu en arriver où on est plus rapidement aussi. On a une autre singularité, c'est qu'on est quasiment la seule entreprise à proposer... parmi celles qui veulent développer une technologie de synthèse enzymatique de l'ADN, donc on est la seule entreprise vraiment qui veut développer ce business model qui, moi, me semble vraiment disruptif de l'imprimante et des réactifs. Mmh. Les autres veulent continuer à rester dans le service. Okay. Et à mon sens, c'est pas... en tout cas, avant de créer DNAscript, quand moi, je pensais à cet outil-là dont j'avais besoin quand je travaillais chez Total Amiris ou chez Sanofi... Un des verrous majeurs, c'est que j'avais envie de contrôler et que ça aille hyper rapidement. Et en restant sur un business model de service, malheureusement, on n'a ni le contrôle, ni le temps d'accès.
Tu dis que tu vas plus vite. Cette rapidité, elle est liée aussi à votre capacité à bien vous financer. Tu dis que vous allez aller sur un nouveau tour de financement. Là, si mes calculs sont bons, vous êtes financé à hauteur de 275 millions d'euros, valorisé plus d'un milliard, c'est ça ?
On ne parle pas vraiment de la valorisation, mais on n'est pas valorisé plus d'un milliard aujourd'hui.
C'est vrai ?
Non.
Ok. Alors, j'ai cru que vous étiez une licorne, je me trompe, je retire ce que j'ai dit. En tout cas, 275 millions d'euros, c'est bien ça, hein, 46 c'est millions en 2020, 142 en 2021. Un nouveau tour de table qui va arriver, ça va être quoi ? Une série E, une série D ?
Une série D, si jamais on s'oriente là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, on ne vit pas de la vente de nos produits encore. Et donc, il y aura encore un événement de financement. Je ne sais pas encore quel sera cet événement de financement exactement, puisque, comme tu viens de le dire, on vient de lever de l'argent. Donc, on a une réserve de cash suffisante. Puis, on a aussi un petit peu revu notre plan de développement pour tenir compte du nouvel écosystème marché / financement qui arrive depuis grosso modo le début de l'année 2022. Mmh. Et c'est mon rôle en tant que capitaine de l'entreprise de aussi penser à s'il y a une tempête, qu'est-ce qui peut se passer. Parce qu'aujourd'hui, DNAscript, c'est 220 employés et pour moi, c'est super important que ces gens-là conservent leur emploi et continuent vraiment à faire progresser notre projet et soient vraiment dans des conditions de travail optimales. Et donc pour ça, oui, il va falloir penser au financement et amener l'entreprise dans une position, quel que soit le type de financement, qui soit optimal au moment où on arrivera à la fin du cash qu'on a levé il n'y a pas longtemps.
Toi qui échanges régulièrement avec des investisseurs, ne serait-ce parce que tu as des investisseurs à bord, c'est quoi ton ressenti par rapport à la situation actuelle ? J'ai un peu des retours différents, des entrepreneurs plus ou moins optimistes, certains qui me disent que c'est extraordinaire parce qu'on revient sur des choses très terre-à-terre, de l'entrepreneuriat très terre-à-terre avec des KPI beaucoup plus précis. On valorise beaucoup plus maintenant l'ARR que la valorisation, des choses qui sont vraiment de l'entrepreneuriat pur. D'autres qui sont un peu inquiets parce qu'ils ont l'impression que les capitaux partent vers d'autres typologies de financement, moins risquées, j'ai envie de dire. Toi, ton ressenti, c'est quoi sur ces 6 derniers mois, toi qui as levé par le passé et qui risque potentiellement de lever dans le futur ?
C'est sûr que l'ambiance générale a énormément changé. Effectivement, avant les valorisations, la compétition autour des investisseurs pour financer des beaux projets était extrêmement intense et important. Et aujourd'hui, même si on n'est pas sur le marché, du coup, moi, je suis pas directement exposé, mais oui, je pense que le sentiment général est quand même a pas mal évolué. Alors, est-ce qu'on revient sur des modes d'entrepreneuriat classiques, un peu plus solides et tout ça ? Je sais pas et je ferai pas trop de commentaires là-dessus. Ça, à mon avis, ça semble un peu logique. Ce qui va un peu être la question, c'est combien de temps, on va dire, ce cycle de décroissance de l'intérêt de financement et tout ça va durer. Ce qui est sûr, c'est que c'est hyper important de financer les entreprises dans notre système actuel. Et donc, les investisseurs, en tout cas certains, ont tendance à réagir très fort d'un côté et de l'autre. c'est aussi très important d'avoir un peu de stabilité dans tout système, hein, que ce soit le financement ou autre, hein, dans n'importe quoi, c'est important d'avoir un peu de stabilité. Donc les coups de barre à gauche, à droite, c'est pas nécessairement le plus optimal. Donc je pense qu'il faut un peu faire attention, si ce n'est pas les investisseurs qui le font, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile pour eux d'avoir un peu plus de hauteur, bah, il faut que ça soit un petit peu les États et la puissance publique qui est aussi énormément financeuse, hein, et qui, BPI par exemple, est dans le capital de beaucoup, beaucoup de fonds d'investissement, et donc ils ont aussi leur rôle à jouer là-dessus, en disant bah non, on ne peut pas d'un seul coup couper les vannes là, et puis d'un seul coup de les ouvrir là-bas. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et voilà.
C'est quoi ton discours étant CEO ? J'imagine que c'est toi qui gère aussi ou qui mène ces différents tours de table. C'est quoi ton discours sachant que, auprès des investisseurs, sachant que j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fonds que j'appelle généralistes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fonds spécialisés biotech, qui sont très friands de SaaS, qui vont chercher de la scalabilité rapide, parce qu'on sait que le logiciel amène plus ou moins facilement de la scalabilité. C'est quoi ton discours face à ces gens qui doivent, pour certains, te voir arriver comme un ovni, puisque tu as un métier différent, une culture, un background différent?
Je pense que malgré leur background et leur expérience, ces investisseurs, ils comprennent que les life science et la technologie, vraiment, le cœur de technologie qu'on développe, ça va prendre du temps. Surtout que nous, en tant qu'entreprise, on est un peu particulier parce qu'on n'est pas issu d'une recherche qui aurait duré 10 ou 20 ans dans un laboratoire plus ou moins public et qui aurait fait une spin-off pour pouvoir créer un projet. Non, on est arrivé, on n'avait que des schémas et des listes d'utiliser et on a commencé le projet day one comme ça. Donc, c'est-à-dire que le premier jour de DNScript, ça a été le premier jour où on devait bâtir la technologie. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des entreprises dans le domaine. La plupart des entreprises dans le domaine, elles vont maturer la technologie pendant 5, 10, 15 ans dans les laboratoires de recherche. Et puis à un moment donné, quand ils ont quand même un embryon de technologie, ce qui nous a pris plus de 2 ans et demi, mais même un peu plus en réalité, bah là, effectivement, ils vont faire une spin-off. C'est ultra classique aux États-Unis. D'ailleurs, les chercheurs qui sont associés à ça ont généralement le titre de cofondateur là-dedans. Et nous, ce n'est pas notre cas. Donc, y a deux effets. Il y a le premier effet qui est, bah, dans tous les cas, c'est long, que ce soit DNScript ou quelqu'un d'autre. Et dans l'autre cas, il ne faut pas oublier que nous, on bâtit la technologie et on bâtit le produit et donc le business model, les revenus de l'entreprise. Je pense qu'il y a une chose qu'on met en avant, et qu'on a toujours mis en avant, c'est notre capacité à bâtir un plan et à plus ou moins, parce que on ne respecte pas totalement, mais au moins à ne pas trop s'éloigner du plan. Et ça, je sais que c'est quelque chose que mes investisseurs, et notamment ceux qui ont investi il y a très longtemps, au début, hein, en 2016, en 2017, me font comme feedback de manière régulière et sans que je leur demande. Encore la semaine dernière, j'en ai un qui m'appelle et il me dit « Ah, c'est génial votre capacité d'exécution et tout ça ». Alors, moi, je suis primo-entrepreneur, donc je ne sais pas ce que c'est une mauvaise ou une bonne capacité d'exécution. J'essaye de faire de mon mieux. Mais c'est vrai que quand je regarde des plans qu'on a fait il y a 2-3 ans, on le fait régulièrement avec Sylvain et Xavier, c'est assez marrant de voir « Ah bah ouais, là, on n'est pas si loin ». Et donc ça, effectivement, on le met en avant. Pour moi, c'est le meilleur antidote contre le fait que, bah oui, c'est long, mais vous voyez, on a un chemin. C'est ce chemin qu'on veut emprunter. On vous a dit qu'à tel jour, on serait là. Et vous voyez, à tel jour, on est à peu près là. Donc voilà. Tant que ça continue comme ça, bah, normalement, on arrivera quand on devra arriver.
La capacité d'exécution, parce que j'allais te demander comment tu gères cette hypercroissance étant primo-entrepreneur. Si je te pose la question précisément sur les équipes, comment est-ce que tu arrives, comment est-ce que tu penses que tu as réussi à créer une équipe qui est passée de 3 personnes, vous 3, à plus de 200 personnes, sachant qu'on le voit, créer une belle équipe, créer une belle boîte déjà, c'est créer une belle équipe. Créer une belle équipe, il ne suffit pas juste de recruter des belles individualités, il faut les garder, les fidéliser. Le faire avec 20-30 personnes, c'est déjà pas simple, mais avec 200, c'est autre chose.
C'est un vrai challenge et c'est quasiment le challenge le plus important de l'entreprise aujourd'hui et je pense de toutes les entreprises qui sont à peu près au même niveau. C'est pas facile et je pense qu'on peut largement améliorer ce qu'on a fait. On a mis 7 ans à arriver à 100 personnes et une année supplémentaire à arriver à 200 personnes. Donc oui, l'hypercroissance, c'est très très compliqué à gérer. Ça induit des erreurs de recrutement, ça induit des onboardings qui ne sont pas du tout bien faits. Et donc à la fin, des gens qui se sentent pas forcément en position de vraiment contribuer à l'entreprise et l'entreprise qui voit des gens qui contribuent pas à la hauteur des espérances non plus. Donc il faut gérer tout ça. Je pense qu'il faut bien être... Une première étape, c'est être bien conscient des capacités de croissance parce que toutes les équipes, toutes les entreprises, enfin à différents niveaux de l'entreprise, que ce soit au global ou au niveau de l'équipe, vont pas avoir les mêmes capacités de croissance. Il y a des équipes qui vont avoir des grosses capacités de croissance pour diverses raisons. Et puis, il y a des équipes qui, malheureusement, vont avoir des faibles capacités de croissance. C'est un peu bateau, mais les équipes qui viennent de se créer, par exemple, généralement, elles ont des capacités de croissance assez faibles parce que l'équipe vient de se créer. Et je pense qu'il faut vraiment pas juste regarder des Excel et se dire, bon, bah voilà, on va être 200, on va être 300, mais vraiment faire beaucoup plus dans les détails. Et pas hésiter à mettre un peu des paliers pour être sûr que les choses sont bien faites. Donc c'est un peu difficile et ça va un peu à l'encontre de l'hypercroissance, mais je pense que faire de l'hypercroissance pour juste faire le chiffre, c'est beaucoup plus... Ça va apporter à une situation qui est bien moins intéressante que faire de la croissance un peu moins vite, mais qui sera beaucoup plus solide.
Cette hypercroissance, ça passe aussi par l'international. Toi, aujourd'hui, tu habites à San Francisco. Comment s'est passée cette phase de transition? Tu disais que tu as déjà vécu à San Francisco, donc tu n'étais pas totalement dépaysé. Mais j'imagine que c'est quand même une grosse étape pour un entrepreneur de déjà se lancer à l'international et de partir vivre à l'international.
Alors,
à l'étranger, en l'occurrence, international, ça veut rien dire. Ouais.
Dans mon cas, c'est pas moi personnellement qui ai ouvert l'activité à San Francisco, c'est plutôt Sylvain. Donc, grosso modo, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà une trentaine d'employés là-bas. À part pendant la période de pandémie, je faisais des allers-retours déjà assez réguliers. Donc, on va dire que j'arrivais dans quelque chose de connu. Et d'un point de vue personnel, hein, comme tu l'as dit, moi, j'ai déjà vécu à San Francisco il y a 10 ans. Donc là aussi, je connaissais plutôt bien. Donc, Et il y a un autre facteur qui est que j'avais un plan de déménagement, de relocalisation à San Francisco qui a été perturbé par la crise du Covid. Donc en fait, j'aurais dû partir en 2020 et au final, je suis parti à l'été 2021, donc quasiment à un an d'écart. Donc on va dire que j'ai eu le temps de me préparer mentalement. Et au contraire, à la fin, c'était plus comme on avait déjà commencé à mettre les jalons. Par exemple, ma femme avait quitté son emploi, des choses comme ça. On attendait quand même d'avoir plus de visibilité. C'était plutôt quelque chose qu'on attendait plutôt que quelque chose qu'on redoutait parce qu'il fallait faire ça dans la précipitation et autres. Donc globalement, ça s'est extrêmement bien passé. Et aujourd'hui, c'est extrêmement bien d'un point de vue à la fois professionnel et personnel d'être là-bas. Je reviens régulièrement en France. C'est assez sportif parce que tous les mois, je passe 2 semaines en France. Donc, je fais un mois aux États-Unis, 2 semaines en France, un mois aux États-Unis, 2 semaines en France. C'est pas quelque chose que je ferai toute ma vie, mais c'est quelque chose de nécessaire pour l'entreprise. Et je vois que c'est bénéfique pour l'entreprise et pour nos objectifs. Et donc, je le continuerai tant que ça sera bénéfique et que je pourrai le faire.
C'est quoi la répartition des équipes entre la France et les États-Unis ou potentiellement d'autres pays ?
Alors la France possède toute la partie recherche, la partie R&D, et ça, c'est je suis extrêmement fier qu'on ait bâti cette équipe-là. C'est vraiment le fleuron de DNScript qui aujourd'hui a créé dans l'historique le plus de valeur, même si cette équipe ne doit pas rester seule. Hein. Clairement, on a développé d'autres équipes pour développer la société. Mais donc la R&D est en France et le restera. On a une petite partie du product development qui est en France, notamment la partie qui est liée au réactif, et tout le reste qui va être basé aux États-Unis. Okay. Ensuite, on a toute la partie commerciale et business development qui est basée aux États-Unis. Et on va avoir la partie manufacturing qui est majoritairement basée en France pour les réactifs et aux États-Unis pour le système, pour l'équipement.
C'est votre plus gros marché, les États-Unis ?
Les États-Unis, c'est clairement notre plus gros marché, à la fois en termes de taille, c'est-à-dire de quantité de clients potentiels, mais aussi dans leur état d'esprit, c'est-à-dire que le marché américain est très friand d'innovation. Ils vont aimer l'innovation, ils vont être des early adopters ou des innovateurs dans l'âme, et donc ça va être plus facile pour nous de pénétrer le marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent nous voir juste parce que la synthèse enzymatique d'ADN, ils trouvent ça super cool. Le fait de posséder une machine qui va faire la synthèse d'ADN dans leur labo, ils sont super fans. Quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Comment ça vous aider? ça va vous aider. Évidemment que ça va les aider, évidemment qu'ils vont trouver, mais aujourd'hui, ils se disent, bah, on verra, il n'y a pas de problème. Et on a des gens comme ça. En France, et, enfin plutôt en Europe, parce que la France n'est pas trop différente du reste, on a quand même des gens comme ça. Mais globalement, la perméabilité à l'innovation est un peu moins importante, ou en tout cas, c'est un peu moins facile. Donc pour ça, être basé aux États-Unis, c'est vraiment important pour nous.
Tu arrives un peu à souffler, à profiter de la famille.
C'est vrai que c'est un peu dur, là. C'est un peu dur depuis pas mal de temps. Mais mon rythme aux États-Unis est beaucoup plus proche de ce qui me convient à moi et à ma famille. Je me lève très tôt le matin parce que bah, il faut avoir un overlap le plus important avec la France. Et du coup, je me réserve le fait de pouvoir rentrer le soir pour le dîner, pour m'occuper de mes enfants. Et ça, tous les soirs de la semaine ou quasiment tous les soirs de la semaine. Et ça, c'est vraiment game changing. Ça change vraiment totalement la dynamique. Et ça me permet de rétablir un peu cet équilibre que j'avais un peu perdu à la fin en France, où les journées sont très longues. Et quand elles sont très longues et qu'elles finissent par « j'arrive » et que tout le monde est couché, c'est un petit peu plus difficile.
Ils ont quel âge tes enfants ?
Alors ma fille a 3 ans et demi et mon fils vient d'avoir 2 ans aujourd'hui.
Ok, j'allais te demander s'ils comprennent ce que tu fais. C'est encore un petit peu tôt, je pense.
Non, voilà, ma fille sait où je travaille. Si on lui demande, elle va dire DNA Script, mais de là à savoir ce que je fais, non, on est encore très loin. Et puis Marius, il ne parle pas beaucoup, donc c'est difficile de
communiquer à ce niveau-là.
Voilà.
Qu'est-ce qui te fait tenir parce que c'est un vrai challenge. Tu as énormément de responsabilités, de poids sur les épaules. Qu'est-ce qui te fait tenir au quotidien et qui fait que tu es là face à moi, souriant et que tout va bien?
Je dirais 3 choses. La première, c'est la responsabilité de toutes ces personnes qui ont contribué à faire de DNA Script ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Je ne me vois pas du tout les laisser tomber. Et je suis autant eux ont accompli leur mission et apportent par rapport aux attentes. Et donc, moi, évidemment, il faut que je fasse mon rôle aussi. Maintenant que je ne contribue plus à faire de DNA Script un succès technologique, un succès de produit, un succès manufacturing et un succès commercial. Moi, je ne fais plus du tout ça. Donc, il faut que je fasse ma part des choses. Et pour moi, c'est super important d'accomplir ma part des choses. La deuxième, c'est vraiment la vision de l'entreprise. Je considère que même si beaucoup de gens nous font un feedback très positif sur ce qu'on a fait, moi, je considère qu'on est encore très, très loin d'avoir accompli ce qu'on devait accomplir. Donc, moi, je ne suis pas le genre de personne qui va m'arrêter à mi-chemin en disant « bon, c'est bon, j'ai fait ça, ça suffit ». Non, moi, je veux vraiment arriver à une entreprise qui va être leader sur le marché, qui va vraiment avoir complètement changé la face du marché de l'ADN synthétique, où tous les gens déjà arrêteront de synthétiser de l'ADN avec la chimie classique et utiliseront de notre technologie de synthèse enzymatique de l'ADN et surtout auront accès à nos produits pour avoir directement accès dans leur labo à de l'ADN synthétique et vraiment être en contrôle total avec des temps d'accès extrêmement courts à cet ADN versus ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, je considère qu'on n'a pas accompli notre mission et tant que la mission ne sera pas accomplie, on ne s'en va pas du champ de bataille. Et puis la troisième, c'est le fait d'apprendre tous les jours. Je vois que j'ai énormément évolué à la fois d'un point de vue professionnel et personnel et ça j'adore. J'aime beaucoup voir que j'apprends énormément. Et ce que je fais aujourd'hui, la manière dont je réagis à des challenges, à des choses comme aujourd'hui, je n'aurais pas fait ça dans le passé. Et pour moi, c'est vraiment génial. Je pense qu'un boulot où on apprend tous les jours, c'est vraiment un boulot en or. Et donc faut le garder. Donc j'ai envie de continuer.
Tu apprends beaucoup, tu es primo-entrepreneur, donc tu as demandé beaucoup de conseils pour apprendre. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné?
Le pire conseil qu'on m'ait donné, ah, c'est intéressant comme question. Entre guillemets, le pire conseil qu'on m'ait donné, ça a été à un moment donné où il y a eu pas mal de pression pour mettre la société aux États-Unis totalement, et notamment mettre la R&D aux États-Unis. Et ça, je considère même pas ça comme un conseil, mais on me l'a donné, je pense, comme un conseil. Mais j'étais directement convaincu, mais au plus profond de moi-même, que c'était vraiment pas du tout la chose à faire. Et donc, j'ai pas écouté ce conseil, heureusement, et je reste convaincu que c'est pas du tout la bonne chose à faire. Mais c'est vrai qu'on me l'a donné un certain nombre de fois à un moment donné, puis après, les gens se sont arrêtés en voyant que ça servait à rien de me donner ce conseil-là.
Et toi, à l'inverse, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à un entrepreneur en phase d'amorçage ?
Alors, il va y en avoir un peu plusieurs, mais un des conseils que j'ai donné tout à l'heure en phase d'amorçage, c'est vraiment... En fait, voilà, mon conseil serait le suivant. C'est vraiment se mettre dans les conditions du succès. On ne sait pas si une entreprise et un projet entrepreneurial va réussir. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne se met pas dans les conditions du succès, il ne va pas réussir. Et rien qu'avoir ce shift de mindset va vraiment aider. Et ça va se traduire dans plusieurs choses. Bah, quand on se met en position de succès, ouais, on se dit que dépenser 5000 euros d'avocat au début pour faire un pacte bien qui va et avoir les premiers financements, bah, on se dit que c'est beaucoup. Mais si on se met dans le mindset, bah non, on fait ça parce qu'après on va être successful, bah, en vrai, c'est que dalle. Et donc, on va le faire. Et voilà. Mmh. Et ça pour tout. C'est-à-dire pour tout. C'est l'entreprise et le projet doit être battu sur le fait que bah, on va y arriver et on va bâtir quelque chose. Parce que sinon... Si on se dit « Ah non, on n'est pas sûr de dépenser cet argent pour faire ça, tout ça », on ne va pas y arriver.
Tu viens de nous décrire 8 ans d'expérience depuis le lancement d'Inescript. Comment tu imagines les 8 années à venir ?
Comment je les imagine ? Je les imagine avec une vraie transformation de l'entreprise qui est en train de se faire aujourd'hui. On est en plein dedans, mais voilà, on a commencé... preuve de concept, tout technologie. Là, on est plutôt dans technologie tout product. Et la prochaine phase, ça sera product to revenues, qu'on a commencé. Et donc, vraiment shifter l'entreprise dans l'organisation, les leaders, les personnes présentes dans cette entreprise vers vraiment arriver à générer du revenu et donc être une vraie entreprise. Parce qu'une vraie entreprise... Ça ne vit pas que des financements publics et que des levées de fonds, ça vit de ses revenus. Et donc ça va être un changement, une transformation majeure de Dinescript. Et d'un autre côté, la conséquence de ça, c'est un monde qui a un peu changé, où on arrête de commander de l'ADN en ligne et l'ADN arrête d'être fait par des réactions chimiques. Et à la place, on utilise Syntax directement dans son labo. Ça, je pense que c'est vraiment la façon dont je vois les choses. Et je vois une entreprise, donc Dinescript, qui vraiment arrive à pousser le marché, à déplacer le marché vers cet état des choses et devient leader de son domaine là-dedans. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple d'Illumina. Ils ont fait ça dans le séquençage il y a... 10-15 ans, et nous, ce qu'on veut faire, c'est la même chose, mais dans le domaine de la synthèse.
C'est ce que je te souhaite, en tout cas, je vous le souhaite. Écoute, je ne suis pas le seul à avoir des questions à te poser. On a quelques personnes croisées ici dans les couloirs à qui on a dit que tu venais enregistrer un podcast et qui ont des questions, donc si tu l'acceptes, on te les passe.
Ah bah, bien sûr, avec plaisir.
C'est parti.
Bonjour Thomas, David Delbourgo, CEO, cofondateur de White Lab Genomics. Avec le recul aujourd'hui, par rapport à votre croissance, vous êtes aujourd'hui 200, il me semble. Quels seraient les 2-3 grands challenges que tu retiendrais en termes de croissance et scalabilité, que ce soit au niveau des équipes ou au niveau du business ?
Ouais, alors, il y en a deux. Le premier, c'est vraiment lié à notre choix d'aller aux États-Unis et notamment sur la côte ouest, avoir 9 heures de décalage, des trajets en avion qui durent plus de 10 heures, c'est compliqué et c'est un vrai challenge. C'est un challenge qui va être vrai pour n'importe quelle entreprise qu'on est en train d'apprivoiser. On ne l'a pas complètement fait parce qu'il n'y a pas de solution magique. On essaye de faire beaucoup de cross-pollinisation, de faire beaucoup venir les équipes françaises aux États-Unis, les équipes américaines en France. On met en place aussi des créneaux de collaboration, c'est-à-dire le soir et le matin, respectivement pour la France et les États-Unis. Voilà, on essaye de les faire travailler le plus possible ensemble, mais c'est un vrai challenge. Le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu sur l'hypercroissance, c'est vraiment faire en sorte de mettre le bon curseur sur les besoins de recrutement, parce que les équipes vont dire « Ah, mais non, on a ce poste, on a absolument besoin de quelqu'un ». Et nous, chez Dinescript, par exemple, les cofondateurs sont impliqués dans 100% du hiring, c'est-à-dire soit moi, soit Sylvain, soit Xavier. On est impliqué dans un interview, que ce soit au niveau du C-level ou au niveau de la personne qui va être dans les labos techniciens ou autre. Et pour nous, c'est super important de conserver ça. Et il ne faut pas hésiter à dire non à des moments donnés. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas.
Merci, merci beaucoup Thomas d'être venu nous voir. C'était vraiment un plaisir. J'ai appris beaucoup de choses sur l'ADN, sur Dynascript, sur toi. Donc merci pour ça. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à noter l'épisode, à noter le podcast 5 étoiles. C'est hyper important pour nous, pour émerger. On n'en est qu'au tout début. Cet épisode que vous écoutez a été enregistré en plein été. On est au mois de juillet. Vous l'entendrez très certainement au mois de septembre. Donc passez un bel été si vous avez encore l'occasion d'être en vacances à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Si c'est pas le cas, bonne rentrée, à très vite pour un prochain épisode. Et Thomas, merci encore et bonne continuation avec Dynascript.
Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir d'être ici et merci à tous pour votre écoute.
À bientôt.